Radio Prague, les informations.
Bonjour, les commissions parlementaires ont approuvé la candidature de Věra Jourová au poste d'eurocommissaire, le chef de la diplomatie tchèque en désaccord avec les déclarations du château de Prague, et football U20, la France en tournée en République tchèque. Les quatre commissions du Parlement européen sont d'accord pour que Věra Jourová devienne eurocommissaire en charge de la justice, de la protection des consommateurs et de l'égalité des sexes. Cette information a été révélée ce mardi à l'agence de presse tchèque suite à la réunion des quatre commissions parlementaires formées par les représentants de la commission du marché intérieur et de la protection des consommateurs, de la commission juridique, de la commission des libertés civiles, de la justice et des affaires intérieures ainsi que de la commission des droits de la femme. Věra Jourová s'était adressée à ces quatre commissions mercredi dernier dans le cadre d'une audition qui a duré près de 3 heures. Si le Parlement européen ne peut pas remplacer individuellement les commissaires, il doit néanmoins l'approuver dans son ensemble. Dans le cas de la Commission européenne de Jean-Claude Juncker, le Parlement doit se prononcer à la fin du mois d'octobre. Selon le chef de la diplomatie tchèque, Lubomír Zaorálek, les sanctions anti-russes ont joué un rôle déterminant dans la pression exercée sur Moscou pour régler la situation à l'est de l'Ukraine. Ce mardi, le ministre des Affaires étrangères, qui avait savoir qu'il gardait espoir en une solution diplomatique du conflit, a réagi aux déclarations du chef de l'État, Miloš Zeman, selon lesquelles les sanctions imposées par l'Union européenne et les États-Unis à la Russie en raison de l'implication du pays dans la crise ukrainienne étaient contre-productives. Si le chef de la diplomatie est d'accord sur le fait que ces sanctions n'apporteront rien de bon, il considère néanmoins qu'elles représentent un outil nécessaire dans le cadre d'une stratégie politique afin que la Russie revienne à la table des négociations diplomatiques et qu'elle participe à un dénouement non violent de la situation. L'action Ukrytme Česko, nettoyons la Tchéquie, a été désignée meilleur projet écologique de l'année dans le cadre des Energy Globe Awards pour la République tchèque. C'est le choix des spectateurs réunis lundi soir dans le théâtre pragois de Vinohrady où se déroulait la finale de la 6e édition de cette manifestation. Nettoyons la Tchéquie représentera la République tchèque lors de la cérémonie des Energy Globe Awards au niveau mondial. 6000 bénévoles ont participé à cette opération en mai dernier, contribuant à ramasser environ 350 tonnes de déchets et à liquider près de 500 décharges sauvages en Tchéquie. L'association s'est inspirée de l'action Let's Do It, présente dans plus d'une centaine de pays. L'Institut de physique de l'Académie des sciences a conclu un accord avec le consortium américano-européen dirigé par l'entreprise américaine National Energetics pour le développement et la fourniture d'un système laser unique au centre Eli Beamlines situé à Dolní Břežany, au sud de la capitale tchèque. Ce système doit permettre des impulsions de lumière jamais réalisées à ce jour dans un laboratoire et devenir un système laser disposant d'une des énergies les plus puissantes au monde. Il doit être mis en service d'ici la fin de l'année 2017. Selon les déclarations du directeur de l'Institut de physique de l'Académie des sciences, Jan Žitký, le système laser devra coûter aux alentours des 840 millions de couronnes, soit près de 31 millions d'euros. Dans les 6 prochains mois, la ville de Prague déboursera près de 3 millions de couronnes, soit environ 109 000 euros, pour la gestion et le nettoyage du pont de Troïa, ouvert au grand public ce lundi. En raison de cela, la municipalité de Prague a ainsi augmenté le budget de l'administration technique des communications qui veille au bon fonctionnement du pont depuis le début de la semaine. C'est l'agence de presse tchèque qui a révélé cette information suite aux délibérations du conseil municipal. Le pont de Troïa fait partie du très controversé complexe du tunnel Blanka. Le prix total de construction à la fois du pont et du tunnel s'élève à 36,9 milliards de couronnes, soit environ 1,34 milliard d'euros. Un coût de réalisation qui a plus que triplé par rapport à ce qui avait été initialement prévu. L'équipe de France des moins de 20 ans est actuellement en stage en République tchèque où elle doit affronter la sélection tchèque ce mardi à Ústí nad Labem, puis jeudi à Chomutov. Parmi les joueurs retenus par le sélectionneur Francis Merecki, on trouve des talents tels qu'Antoine Rabiot qui évolue au PSG ou encore Wesley Saïd du stade Lavallois. De leur côté, les jeunes tchèques essaieront de faire aussi bien que le mois dernier aux Pays-Bas où ils sont parvenus à décrocher la victoire 1-0. L'entraîneur de la sélection tchèque, Pavel Hoftich, reconnaît la supériorité des Bleuets mais estime qu'un bon résultat est possible au regard du succès face aux Néerlandais. Un mot de météo pour terminer. Toutes les vielas sont à l'honneur du calendrier tchèque ce mercredi. Le ciel s'assombrit sur l'ensemble du territoire tchèque. Seules les régions d'Ostrava et de Plzeň s'attendent à un ciel partiellement couvert. Les températures aussi entre 14 et 20 degrés pour les maximales. Merci d'avoir suivi ce bulletin d'information qui vous a été présenté par Denisa Tomanova. La suite de notre programme, c'est tout de suite avec Pierre Mignon.
Faits et événements en République tchèque.
Amis du jour, bonjour. Amis du soir, bonsoir. Et bienvenue à l'écoute de cette émission de Radio Prague consacrée à l'actualité tchèque. Merci tout d'abord à Denisa Tomanova pour son bulletin d'information. Au programme de ce mardi, la demande de rapatriement des Tchèques de Volhynie suscite le débat en République tchèque entre le chef de l'État Miloš Zeman, qui souhaiterait satisfaire ses habitants du nord-ouest de l'Ukraine, originaire de République tchèque, et le gouvernement qui est plus réservé sur la question. Guillaume Narguet vous en dit plus dans quelques instants. Vous retrouverez ensuite Alžběta Tichá qui a assisté au vernissage de l'exposition Cirque Citroën, une ode à la légendaire Dodoche, la deux chevaux qui a de nombreux inconditionnels en République tchèque, vous le verrez. Cette expo, vous pouvez la découvrir à l'Institut français où nous resterons dans la seconde partie de l'émission puisque son cinéma, le Kino 35, propose en ce moment une rétrospective consacrée au cinéaste François Truffaut, l'un des maîtres de la nouvelle vague française. Bonne écoute à tous et à toutes. Les demandes de rapatriement formulées par les Tchèques de Volhynie, famille d'origine tchèque vivant dans le nord-ouest de l'Ukraine, divisent les autorités politiques à Prague. Tandis que le ministère des Affaires étrangères n'a encore satisfait aucune demande depuis le dépôt de la première d'entre elles en mars dernier, le président de la République, Miloš Zeman, lui aussi directement sollicité par les Tchèques d'Ukraine, a indiqué lundi qu'il allait transmettre le dossier au ministère de l'Intérieur afin de pouvoir les accueillir. Un sujet de Guillaume Narguet.
Lorsque Miloš Zeman a quelque chose à dire, il le dit. Et généralement, il n'y va pas avec le dos de la cuillère. Fidèle à son habitude, le chef de l'État ne s'est donc pas privé, en fin de semaine dernière, après son entrevue avec le ministre des Affaires étrangères, de critiquer le travail de l'ambassade tchèque à Kiev. Le président estime que celle-ci a manqué à ses obligations en ne s'occupant pas de la requête de rapatriement envoyée il y a quelques mois déjà de cela par plusieurs dizaines de familles d'origine tchèque. Directeur du département en charge des affaires étrangères au bureau du président de la République, Hinek Kmonicek précise pourquoi Miloš Zeman s'est engagé personnellement dans ce dossier compliqué. Le président a reçu une demande de 232 citoyens vivant dans deux régions différentes en Ukraine. Tous souhaitent revenir dans leur pays d'origine sans que la liste de leurs noms soit transmise au ministère des Affaires étrangères. C'est pourquoi le président a décidé de remettre cette liste au ministre de l'Intérieur afin que celui-ci trouve une solution. Il s'agit donc d'un dossier du ressort du ministère de l'Intérieur. Toutefois, le ministère de l'Intérieur n'entend pas se décider seul, comme l'a expliqué le ministre Milan Chovanec. Nous attendons d'abord de disposer de cette liste de noms. Ensuite, nous consulterons l'ambassade et le ministère des Affaires étrangères pour entrer en contact avec ces gens et vérifier que leur demande est bien justifiée. Au sein même de la coalition gouvernementale, les avis sont partagés. Vice-premier ministre et leader du Parti chrétien-démocrate, Pavel Bielobradek, estime ainsi que la République tchèque devrait faire preuve de bonne volonté. Ce sont des gens qui ont non seulement des origines tchèques, mais qui sont aussi travailleurs. Je pense donc que les accueillir devrait nous intéresser et que nous devrions les aider dans leur démarche de rapatriement.
V tomhle případě i v rámci té repatriace jim co nejvíce pomoci.
Le Premier ministre Bohuslav Sobotka s'est montré quant à lui plus prudent dans ses déclarations. Le chef du gouvernement ne souhaite pas que ses demandes de rapatriement soient récupérées par la propagande russe contre l'Ukraine. Parallèlement, accueillir ces Ukrainiens d'origine tchèque pourrait compliquer les relations bilatérales entre Prague et Kiev. En effet, un certain nombre de demandeurs pourrait faire l'objet de la mobilisation de l'armée ukrainienne. Sur ce point, le directeur du département en charge des affaires étrangères au château de Prague n'est pas d'accord, Hinek Kmonicek. Je ne pense pas que ce soit la question. Si la République tchèque décide de satisfaire ses demandes de rapatriement, ce ne sera pas une décision qui sera prise pour ou contre la Russie, pour ou contre l'Ukraine, et pas même pour les Tchèques de Volhynie. La seule raison est que nous voulons prendre cette décision pour nous-mêmes, pour démontrer qu'être Tchèque signifie encore quelque chose aujourd'hui, ce qui implique certaines obligations pour les deux parties concernées. Une décision finale sera prise par le gouvernement après concertation donc des ministères de l'Intérieur et des Affaires étrangères. Et si le gouvernement donnait son feu vert, les premiers Tchèques d'Ukraine pourraient être rapatriés avant la fin de l'année.
Une exposition intitulée Cirque Citroën se tient actuellement à l'Institut français de Prague. La manifestation présente diverses illustrations avec pour motif la fameuse Citroën 2 chevaux, appelée familièrement la Dodoche. Alžběta Ticha a assisté au vernissage de cette exposition.
Connue en Tchéquie sous le nom de Kachna, canard en français, la Citroën de CV pour deux chevaux est une voiture très populaire encore de nos jours et même en République tchèque. Source d'inspiration pour un grand nombre d'artistes, cette voiture constitue, selon l'ambassadeur français Jean-Pierre Asvazadourin, présent lors du vernissage de l'exposition, un synonyme d'aventure et une voiture typique de la marque Citroën connue en Tchéquie, surtout grâce au film de gendarmes de Saint-Tropez qui était projeté à la télévision même durant l'époque communiste. Les auteurs de l'exposition, les plasticiens de Plzeň Pavel Botka et Miroslav Hora, sont eux aussi de grands amateurs de cette fameuse voiture. Miroslav Hora raconte sa passion pour la France qui est à l'origine de ses illustrations.
Je ne parle pas français sauf trois mots environ, mais j'aime les films français de la nouvelle vague et les voitures françaises bien sûr. Actuellement, je conduis une Renault et des Dodoche en été. J'en ai une qui est en bon état et encore sédimentée dans mes garages.
Membre du club indépendant de CV de Prague, Monsieur Hora poursuit en affirmant que c'est aussi grâce à cette Dodoche personnelle que l'idée initiale de faire cette exposition est née.
Un jour, nous sommes allés à Ratisbonne, où j'ai acheté une de mes Dodoches. Nous l'avons démontée là-bas pour transporter en Tchéquie. Lors du voyage, nous nous sommes dit que même les débris de cette voiture sont vraiment jolis et que cela vaudrait le coup d'en faire une exposition. Et nous l'avons faite.
À la galerie 35 qui est située à l'Institut français de Prague, les curieux peuvent découvrir de grandes illustrations en couleur, ainsi que des illustrations sous forme de bandes dessinées et divers objets liés à cette voiture. Toutefois, la création artistique préexistait au projet de l'exposition. Pavel Botka précise sur ce point.
J'ai commencé avec mes illustrations pour Noël 2010. Il s'agissait plus précisément d'illustrations pour un livre que nous avons publié. Et en 2012, nous avons préparé une exposition à Plzeň. Aujourd'hui, c'est donc la deuxième édition de cette exposition.
Parrain du projet et leader du groupe de musique Tata Boys, Marek Huniat, appelé plus souvent Mardosha, est aussi propriétaire d'une Dodoche. Pour lui, la Citroën de CV est plus qu'une simple voiture.
Nous avons acheté une Dodoche en 2001 avec ma femme. J'admirais cette voiture depuis longtemps, mais je ne savais pas conduire. Pourtant, je l'ai achetée et je me laissais conduire par mes amis. J'avais un permis que je passais à l'âge de 18 ans, mais je ne l'utilisais jamais et alors je tout oubliais. Mais la Deutsche était la seule voiture qui m'intéressait au point de recommencer à apprendre à conduire. Alors je l'ai essayé plusieurs fois avec mes amis et aujourd'hui je peux dire que j'ai appris à conduire une Deutsche.
Lors du vernissage, le public pouvait admirer Dolly, un modèle de DeSevres de 1985, ainsi que la nouvelle Citroën C4 Cactus ou une version de DeSevres customisée par Jaroslav Hořák et avec laquelle il a traversé l'Europe l'été dernier. En dehors de l'exposition, une virée de l'automne, qui est un parcours traditionnel de DeSevres, était organisée le samedi 4 octobre dans la matinée. Une trentaine de voitures sont parties de Prague 6 vers le centre-ville pour rendre hommage à ce modèle qui a cessé d'être construit en 1990. L'exposition, dont le principal partenaire est Citroën République Tchèque, est à voir jusqu'au 30 novembre. Ensuite, elle prendra la route pour se poursuivre à Paris.
Il y a 30 ans, le 21 octobre 1984, mourait François Truffaut, réalisateur français majeur, emblématique de la Nouvelle Vague. À l'occasion de ce triste anniversaire, le public français peut découvrir une rétrospective de son œuvre, organisée conjointement par l'Institut français de Prague, les archives nationales tchèques du film et le cinéma Pan Repos. Jusqu'au 20 octobre, les spectateurs ont l'opportunité de voir ou de revoir les œuvres du cinéaste les plus appréciées et connues, telles que Jules et Jim, ou d'autres plus confidentiels comme les deux Anglaises et le Continent. Au micro de Radio Prague, Sylvie Leray, programmatrice du Kino 35, le cinéma de l'Institut français, a présenté cet événement cinématographique.
Panorama.
Panorama.
Les Parisiens ne sont pas les seuls à pouvoir revisiter le cinéma de François Truffaut à travers la rétrospective intégrale et l'exposition que lui consacre la Cinémathèque française. Les Pragois également ont l'occasion de se plonger dans une vaste cinématographie largement récompensée à travers le monde, de découvrir le destin d'Antoine Douanel, le double du réalisateur à l'écran, et de se délecter du jeu des prestigieux acteurs et actrices qu'il a filmés. Citons Catherine Deneuve, Jean-Louis Trintignant, Jeanne Moreau, Fanny Ardant, Gérard Depardieu ou encore Isabelle Adjani. Et pour cela, ils peuvent remercier Sylvie Leray qui revient sur la genèse du projet.
On se rencontre assez régulièrement avec les programmateurs du cinéma Pan Repos et les gens des archives nationales tchèques, comme avec d'autres gens, on va dire, qui travaillent dans le cinéma. Et en discutant, tout simplement, on a commencé à parler de cette numérisation et restauration de certains films qu'opérerait dans l'année le distributeur les ayants droit français de François Truffaut.
Et la machine infernale est lancée vers cette rétrospective, un événement parmi les plus coûteux à organiser, ainsi que le précise Sylvie Leray.
Après deux ou trois rencontres, en fait, l'idée a germé, puisqu'on s'est aperçu que certains films étaient donc disponibles aux archives tchèques. L'Institut français à Paris finalement a renouvelé les droits sur quatre films, ce qui nous a permis à nous de commander quatre films supplémentaires à coût réduit, il faut bien l'admettre, et donc de réduire finalement le nombre de films commandés aux distributeurs français.
Parmi la vingtaine de films réalisés par François Truffaut entre la fin des années 1950, quand il délaisse son activité de critique des cahiers du cinéma pour devenir auteur de cinéma au début des années 1980, il a fallu faire le choix d'une programmation cohérente. Sylvie Leray.
Donc on a essayé de prendre évidemment les grands films connus du grand public que je pense... Et les premières réservations, en tout cas, montrent qu'il y a toujours un intérêt soit pour les revoir, soit pour les découvrir pour des jeunes, donc tels que Julie Jim, Vivement Dimanche, ce genre de films-là.
avait des bagues à chaque doigt, des tas de bracelets autour des poignets. Et puis elle chantait avec une voix qui sitôt m'enjola. Elle avait des yeux d'opale, qui me fascinaient. Il y avait l'ovale de son visage pâle, de femme fatale qui me fut fatale, de femme fatale qui me fut fatale. On s'est connu, on s'est reconnu, on s'est perdu de vue.
Pour Vivement Dimanche, film qui compte la romance d'une secrétaire jouée par Fanny Ardant pour son patron Jean-Louis Trintignant sur fond d'enquête policière. Comme pour Jules et Jim, l'histoire d'un amour à trois, un choix d'ordre technique s'est également imposé.
Le public peut même aller dans les deux cinémas et ne verront pas la même copie. Par exemple, Vivement Dimanche, s'ils vont voir Upon Repo, ils verront la copie tchèque, on va dire, des archives tchèques. Et à l'Institut français, on a quand même fait venir une copie de Paris. Jules et Jim est numérisé, en tout cas la copie qui passera à l'Institut français, mais c'est une copie 35 mm, donc un format classique qui sera diffusé à Upon Repo. Donc on a essayé aussi de jouer sur les différents supports disponibles de nos jours.
Alors à ce moment-là, elle m'a confisqué le beau livre que ma grand-mère m'avait donné. Puis un jour, j'ai demandé parce que je voulais le lire. Puis je me suis aperçue qu'elle l'avait revendu.
Tes parents disent que tu mens tout le temps.
Je mens de temps en temps, quoi. Des fois, je leur dirai des choses qui seraient la vérité, ils ne me croiraient pas, alors je préfère dire des mensonges.
Notamment connu pour ses longs-métrages associés à la nouvelle vague que sont Les 400 coups ou Jules et Jim, François Truffaut a également signé des films moins connus du public, dont certains sont projetés parfois pour la première fois en République tchèque, au Kino 35 ou au cinéma Pont de Repos.
Et ensuite, on a complété par des films. Alors finalement, auprès du distributeur, on a choisi de commander peut-être des films un peu moins connus ou plus confidentiels, comme Les deux Anglaises et le continent, Baiser volé, voilà, des films comme ça que, à mon sens, le grand public connaît moins.
Là encore, les spectateurs peuvent profiter d'expériences cinématographiques différentes.
Et là, on a choisi un autre format qui n'est ni le numérique ni le format classique, qui est un format qu'utilisait beaucoup la télévision, qui sont des copies bêta numériques. Comme ça, le public peut aussi naviguer. C'est l'occasion, ce genre d'événement, à mon sens, de retrouver des formats classiques, de découvrir des films anciens, mais sur des copies numérisées. Le public aura le choix et peut même aller voir plusieurs fois le même film, ça ne sera pas tout à fait le même film.
Sylvie Leray dispose d'une équipe en charge du sous-titrage, une charge de travail qui contribue à la complexité de l'organisation d'une rétrospective.
Les quatre films, effectivement, qu'on a commandés au distributeur, ceux-là sont complètement inédits sur le territoire tchèque et ont fait l'objet, évidemment, d'un long travail aussi de sous-titrage parce que tous ces paramètres-là, le choix d'une copie, l'attente d'une numérisation et puis ensuite le sous-titrage, pourquoi un projet peut prendre jusqu'à un an de préparation.
Un travail qui n'est pas vain puisque tous pourront tirer profit de cette rétrospective, le public et les professionnels bien sûr, mais également Sylvie Leray elle-même qui confesse un faible pour un film de François Truffaut en particulier.
Je vois les premières réservations, en tout cas que même le grand public, à mon sens, a envie de retrouver à la fois cette esthétique, certains comédiens qui seront sûrement ravis de voir. Je pense à Jean-Louis Trintignant, Fanny Ardant évidemment, et Jeanne Moreau, bien d'autres. Donc je pense qu'à la fois le grand public et des professionnels peuvent y trouver quelque chose parce que même si c'est un cinéma qui peut paraître maintenant plus lent, je pense que ça a un intérêt justement pour des professionnels aussi, surtout des jeunes. On est dans un pays où il y a beaucoup de jeunes grâce à la FAMU qui se lance dans les métiers du cinéma. Ça a un intérêt, je pense, profond de revoir des films qui vont un peu moins vite que ce qui est tourné aujourd'hui.
Et vous, personnellement, qu'est-ce que vous trouvez dans les films de Truffaut ?
Alors, plusieurs choses. Alors, c'est toujours compliqué de demander à un programmateur pourquoi il a fait ce choix, etc. Je pourrais dire deux choses. Alors, moi, j'aime beaucoup, justement, certains films un petit peu lents par rapport à ce à quoi notre œil est habitué aujourd'hui. Personnellement, je suis très attachée à certaines musiques. Mais aussi, je parlerai de deux choses. Il se trouve que j'ai eu la chance de voir certains films, et notamment Vivement Dimanche, aux côtés de Jean-Louis Trintignant, lorsque on l'avait invité il y a quelques années. Donc évidemment, de façon personnelle, je suis toujours contente de revoir ce genre de film. Et en plus, je trouve que c'est un film qui est assez joyeux, ce qui aussi est peut-être un peu plus rare aujourd'hui, mais il y a une certaine légèreté à la fois dans l'esthétique et dans le jeu qui, en tout cas, me plaît beaucoup dans ce film. Et puis, évidemment, Truffaut, dans ce film, pour ceux qui aiment Fanny Ardant, je pense qu'elle est filmée avec tant d'amour dans ce film que ça transparaît. Donc c'est vrai que j'ai un petit pincement de cœur pour Vivement Dimanche.
La rétrospective de l'œuvre de François Truffaut est à découvrir au cinéma Ponrepos et au Kino 35 de l'Institut français de Prague jusqu'au 20 octobre. Voilà, c'est avec la rétrospective consacrée au cinéaste français François Truffaut, à la Cinémathèque de Prague, au cinéma Ponrepos et à l'Institut français que s'achève notre émission. Merci d'avoir suivi ce programme que vous présentait Pierre Maignan et n'oubliez pas que vous pouvez retrouver tous nos articles sur le site www.radio.cz/fr. À très bientôt. Aroy.